Midi et demi à Paris, 11h30 en temps universel. Vous écoutez RFI.
RFI Midi, Marion Cazanov.
Bienvenue dans RFI Midi, votre rendez-vous d'information de la mi-journée. Un tour du monde complet de l'actu avec nos chroniques, nos invités, nos reportages. Ce tour du monde commence en Europe. D'abord en Suède, un profanateur de Coran a été tué par balle. Hier, 5 personnes ont depuis été arrêtées. Face à la concurrence chinoise, l'Union européenne tente de revenir dans la course auto, plutôt la course à la construction automobile. Elle lance aujourd'hui une vaste concertation sur le sujet. De la boue encore omniprésente dans la région de Valence en Espagne, 3 mois après les inondations meurtrières. Malgré les dégâts qui restent encore nombreux, les enfants retournent à l'école entre soulagement et traumatisme. Avec notre invité international, on reviendra tout à l'heure sur la suite de la transition en Syrie, constitution suspendue, parlement dissous et Ahmed Al-Shara nommé président par intérim. On verra ce qu'impliquent ces décisions pour les Syriens. Au Royaume-Uni, 5 ans après le Brexit, les agriculteurs font le bilan. Si les Britanniques regrettent majoritairement ce choix, les agriculteurs sont plus mitigés.
On nous avait dit qu'avec le Brexit, les prix allaient chuter et que l'agneau britannique n'aurait plus de demande à cause des droits de douane. Mais c'est tout le contraire. La demande est là et aucune taxe n'a été imposée sur l'agneau britannique. Pour l'instant en tout cas.
Reportage à venir. À midi et demi, temps universel, Afrique Midi avec Nicolas Sur, où on reviendra notamment sur la situation à Goma dans l'est de la RDC. Après le journal de 13h, temps universel, le journal d'Haïti et des Amériques, RFI et France 24 ont pu s'entretenir avec Leslie Voltaire, président du conseil présidentiel de transition en Haïti, qui attend le déploiement de centaines de policiers encore dans le cadre de la force multinationale pour combattre les gangs.
Ils ne sont pas suffisants. On est en train de faire du lobby pour augmenter les effectifs. Et la population s'est alliée à la police. Et ils ont commencé à faire des travaux de légitime défense sur les bandits. C'est une guerre qu'on a lancée.
L'interview de Leslie Voltaire dans le journal d'Haïti et des Amériques. RFI Midi, vous avez le programme. Bienvenue si vous nous rejoignez.
RFI Midi, l'Europe à midi.
En Suède, un militant irakien a été tué par balle. Salwan Momika était connu pour avoir brûlé des exemplaires du Coran en 2023, ce qui avait provoqué des manifestations de colère dans des pays musulmans. Il a été assassiné hier soir en banlieue de Stockholm. Stockholm où l'on retrouve notre correspondante Ottilia Ferret. Ottilia, que sait-on précisément des circonstances de sa mort ?
Alors ce qu'on sait, c'est que peu après 23h hier soir, la police a été appelée dans un quartier au sud de Stockholm après que des coups de feu ont été tirés à l'intérieur d'un immeuble. Sur place, Salwan Momika est décédé. L'auteur des autodafés de Coran était en direct sur les réseaux sociaux au moment de la fusillade. Dans une vidéo diffusée dans la presse suédoise, on aperçoit un policier apparaître dans le cadre du téléphone et arrêter le live TikTok. Une enquête préliminaire pour meurtre a été ouverte et la police a annoncé avoir arrêté 5 personnes dans la nuit avant de les placer en garde à vue. Salwan Momika et son compère Salwan Najem avaient été renvoyés en procès pour incitation à la haine. Le verdict devait être rendu ce jeudi, il a donc été reporté. Salwan Momika était arrivé d'Irak en Suède en 2018 et avait ensuite obtenu un permis de séjour de 3 ans. Il s'était fait connaître du public à l'été 2023 lorsqu'à plusieurs reprises, et ce en plein processus suédois d'adhésion à l'OTAN, il a brûlé des Corans en signe de protestation contre l'islam. Des actes qui avaient provoqué de vives réactions bien au-delà des frontières suédoises. Sa tête avait été mise à prix, mais aucun mobile n'a pour l'heure été mis en avant dans la fusillade qui a coûté la vie à l'auteur des autodafés.
Ottilia Ferret en direct de Stockholm pour RFI.
RFI Midi.
L'Union européenne tente de se relancer sur le marché automobile. La Commission lance aujourd'hui un dialogue stratégique sur le sujet. Il réunira fabricants et fournisseurs, mais également les partenaires sociaux et des représentants de la société civile. Au menu, l'innovation et la compétitivité, la transition propre et la décarbonation aussi. Les 27 doivent donc composer entre leurs objectifs environnementaux et les appels à l'aide du secteur. Bonjour Pauline Glaise.
Bonjour.
Parce que ce secteur, Pauline, est en grande difficulté.
L'automobile européenne est frappée de plein fouet par la concurrence chinoise et l'arrivée au pouvoir de Donald Trump aux États-Unis laisse craindre une augmentation des droits de douane sur les voitures européennes. Cela aurait pour effet de désavantager les véhicules de l'Union sur le marché américain. Et le marché européen n'a toujours pas retrouvé sa vitalité d'avant Covid, souligne Flavien Neuvy, directeur de l'Observatoire CTLM.
Le niveau des ventes en Europe en 2024 est à peu près 15 à 20% en dessous de son niveau de 2019, donc il y a un problème de volume.
Dans ce contexte, Pauline, l'ACEA, lobby automobile européen, et certains pays membres, dont la France et l'Italie, demandent à la Commission européenne de ne pas sanctionner les constructeurs en cas de non-respect des nouvelles normes environnementales.
Oui, de nouvelles normes, parce qu'à partir de cette année, les normes sur les émissions de CO2 des véhicules vendus deviennent plus exigeantes. Les voitures ne doivent pas dépasser 93,6 grammes de CO2 par kilomètre en moyenne. En moyenne, c'est une partie importante de l'énoncé, car les constructeurs comptent ou comptaient sur les ventes de voitures électriques pour atténuer le bilan des voitures thermiques. Sauf que les véhicules électriques ont perdu des parts de marché l'an dernier. L'ACEA appelle donc à de la souplesse. L'économiste Flavien Neuvy commente.
En plus d'être dans un contexte économique difficile où ils ne vendent pas assez de voitures, ils pourraient en plus avoir à payer des amendes, ce qui évidemment viendrait les fragiliser.
Une autre option envisageable pour rentrer dans les clous, c'est de conclure des accords avec d'autres constructeurs pour réduire la moyenne des émissions, mais cela finance les concurrents.
Et pour autant, les organisations de défense de l'environnement estiment qu'assouplir la mise en œuvre de ces normes enverrait un mauvais signal.
Le signal que finalement, il ne serait pas si grave de ne pas respecter les règles environnementales. Et puis l'organisation Transport et Environnement conteste l'estimation de l'amende encourue par les constructeurs, une estimation tournant autour de 15 milliards d'euros a été avancée. Mais souligne Marie Chiron de Transport et Environnement, l'estimation se base sur les chiffres de vente de 2024. Or, elle s'attend à ce que le recul de part de marché de l'électrique ne soit que temporaire, un effet conjoncturel lié précisément à la manière dont est conçu le plan de décarbonation du secteur.
Les normes de CO2, elles évoluent par paliers. C'est-à-dire qu'il y a eu un premier passage avec un durcissement des normes en 2020. Là, il y en a un autre et il y en aura un autre en 2030 avant d'atteindre l'objectif de 100% de réduction en 2035. Les constructeurs adaptent leur production et leur stratégie de commercialisation, de vente, etc. à une réglementation qui se fait par étapes. Ce qu'on observe en ce moment, c'est la même chose que ce qu'on avait observé déjà en 2019-2020. Avant le durcissement des normes, les constructeurs prennent leur temps et lancent les nouveaux modèles à partir de fin 2000. Donc cette année, c'était fin 2024 et 2025. On a des nouveaux modèles d'électriques qui arrivent, qui sont un peu moins chers, avec un peu plus de modèles de citadines. Ce sont ces modèles-là qui ont vocation, en fait, à élargir le marché de l'électrique.
Hier, la Commission européenne s'est dite prête à être flexible pour que l'industrie européenne reste compétitive et d'ajouter, sans réduire l'ambition globale des objectifs pour 2025, à voir de quel côté elle penchera la balance.
Dossier signé Pauline Glaise avec Nicolas Feldman. Alors que l'Union européenne tente donc de relancer sa construction automobile, le Royaume-Uni se tourne vers l'aérien avec peut-être bientôt la construction d'une troisième piste d'atterrissage à l'aéroport d'Heathrow à Londres. Le gouvernement apporte en tout cas son soutien à ce projet pour l'aéroport le plus fréquenté du continent. Émeline Vin, l'expansion de l'aéroport divise dans le pays.
D'un côté, il y a l'argument économique. C'est d'ailleurs la ministre des Finances qui a donné le feu vert. Une troisième piste d'atterrissage pour le premier aéroport du pays stimulera la croissance, les investissements étrangers et rendra le Royaume-Uni encore mieux relié à l'international, selon Rachel Reeves, qui promet 100 000 nouveaux emplois et des opportunités commerciales majeures, en particulier pour le saumon écossais ou le whisky, une fois les travaux achevés, pas avant 2030. Le Parti conservateur dans l'opposition, la Chambre de commerce et la Confédération des petites entreprises ont également apporté leur soutien au projet. De l'autre côté, il y a l'argument écologique. Les associations de défense de l'environnement et le maire de Londres, l'influent Sadiq Khan, s'inquiètent de l'impact d'une troisième piste d'atterrissage sur la pollution de l'air et les émissions de gaz à effet de serre, pas convaincus par l'investissement de 70 millions d'euros dans la recherche de carburant durable pour le transport aérien. Le gouvernement devrait aussi trancher très prochainement sur d'autres projets d'expansion dans les aéroports londoniens de Luton et Gatwick. Emeline Van Londres, RFI.
RFI Midi, Berlin, 96.7 FM.
Une prise de parole rare et inhabituelle en Allemagne. L'ancienne chancelière Angela Merkel a pris la parole pour critiquer son propre parti, la CDU, qui a fait voler en éclats le cordon sanitaire autour de l'extrême droite. La CDU a fait adopter hier une motion anti-immigration au Bundestag et a pu donc compter sur les voix de l'AfD. Et cela pourrait bien modifier le cours de la campagne avant les élections du 23 février, Pascal Thibault.
Lorsque la décision tombe, 348 voix pour, 344 contre, les députés AfD députés exultent. L'un d'eux parle d'une nouvelle ère. La présidente de l'Alternative pour l'Allemagne, Alice Weidel, savoure le coup de canif infligé au cordon sanitaire autour de son parti.
C'est une victoire de la démocratie et bien sûr une victoire de l'AfD.
Pour la première fois depuis la guerre, des partis acceptent les voix de l'extrême droite pour faire passer un texte. À gauche, les protestations sont nombreuses. Le chancelier Scholz a même spéculé devant le Bundestag sur une alliance en bonne et due forme entre chrétiens démocrates et AfD.
Vous acceptez le soutien de ceux qui combattent notre démocratie. C'est une faute grave. C'est une faute impardonnable.
Les chrétiens démocrates ont fait un pari risqué avec une motion qui n'a pas de caractère contraignant. Regagneront-ils des électeurs tentés par l'extrême droite? Perdront-ils un électorat plus modéré? Le candidat à la chancellerie de la CDU et le favori des sondages, Friedrich Merz, a défendu sa stratégie.
Une bonne décision ne perd pas sa valeur parce que les mauvaises personnes la soutiennent. Elle reste pertinente.
Vendredi, une proposition de loi des chrétiens démocrates pourrait, en cas de vote positif, confirmer la césure de ce mercredi. Pascal Thibault, Berlin RFI.
RFI Midi, Marion Cazanov.
3 mois après les inondations meurtrières dans la région de Valence en Espagne, les sinistrés sont loin d'avoir retrouvé une vie normale. La reconstruction de leur habitation prendra des années, mais malgré cela, les enfants, eux, ont repris le chemin de l'école dans des conditions difficiles, entre soulagement et traumatisme. Reportage sur place d'Élise Gazangel.
Leurs cris sont revenus petit à petit. Une fois les trottoirs nettoyés, une fois la boue disparue, les enfants de la région de Valence ont progressivement retrouvé leurs rues et leurs écoles. Au Colegio de Sedaví, qui accueille près de 800 élèves de 0 à 18 ans, les enfants entrent désormais par une porte en ferraille. L'ancienne a été emportée par les eaux il y a 3 mois. Malgré un rez-de-chaussée comprenant la maternelle complètement dévastée, le corps enseignant a décidé de rouvrir au bout d'un mois. José Julio Molina, directeur de l'école, nous fait la visite guidée.
Le plus important, c'était d'accueillir de nouveau les enfants au plus vite. Mais bon, comme tu vois, ici, on est comme ça, sans mur, sans porte, sans fenêtre. Et là, ça va, parce que l'eau n'est pas montée.
Mais en plus des dommages matériels, il a fallu gérer les traumatismes des plus petits.
Quelques jours avant de rouvrir l'école avec les élèves, on a contacté une équipe de psychologues. Et avec tous les enseignants, on a suivi une formation. D'abord pour organiser comment recevoir les élèves, mais surtout pour savoir comment parler de ce sujet avec eux.
Pour les plus grands, des espaces de dialogue ont été mis en place pour qu'ils se racontent leurs expériences.
Certains expliquaient comment ils avaient passé la nuit seuls avec leurs frères parce que les parents n'arrivaient pas à rentrer. En vérité, quand ils racontaient leurs histoires, ça donnait la chair de poule. On a des enfants qui ont la phobie de la pluie, par exemple, et qui ne veulent plus du tout sortir quand il pleut.
Depuis 3 mois, les psychologues s'affairent. C'est le cas de Rosa Molero, psychothérapeute spécialisée en situation d'urgence. Avec ses collègues, elles offrent leurs services aux habitants des villes les plus touchées. Pour elles, combattre ce genre de traumatisme chez les enfants passe aussi par le fait de soigner les adultes.
Ils ont besoin de digérer ce traumatisme, évidemment. Mais au fond, quand il y a des catastrophes, l'important c'est surtout qu'ils se sentent en sécurité et qu'ils voient que leurs parents, qui avaient peur, restent des figures protectrices, parce que sinon, le problème s'aggraverait.
Pour la spécialiste, même si les enfants semblent parfois plus capables que les adultes de dépasser un traumatisme, il faut les accompagner et les surveiller.
C'est vrai que les enfants sont résilients et ont une énorme plasticité, mais il faut les aider. Ils ont besoin de se construire un narratif cohérent et qui s'appuie sur le vécu, parce que sinon il ne reste que l'impact émotionnel. Alors que s'il y a un récit, il restera un souvenir de quelque chose d'horrible, certes, mais qu'ils ne vont pas revivre sans arrêt. C'est important que les parents ne cherchent pas à ce qu'ils oublient. Il ne faut pas en parler tous les jours, mais évoquer régulièrement comment ils se sentent, comment ils avancent,
Mais leur environnement peut aussi freiner les enfants dans leur capacité à se reprendre en main. À Paiporta, épicentre des inondations, Esther Beltran essaie de sortir ses enfants de chez elle pour récupérer quelques vivres au centre de dons. Esther, 11 ans, et Pablo, 16 ans, ont passé la nuit du 29 octobre dernier seuls, sans nouvelles de leurs parents, tandis qu'ils voyaient par leur fenêtre les corps de leurs voisins emportés par les eaux. La mère explique.
C'est vrai que mon aîné ne voulait plus manger au début. Il voulait économiser les vivres parce qu'on n'avait ni eau ni nourriture. Et la petite, elle voulait simplement plus sortir. On la force, mais elle dit que si c'est pour voir Paiporta comme ça, elle préfère pas, parce qu'il n'y a plus de parc, il n'y a plus de lumière dehors quand il fait nuit. Les enfants ne se retrouvent qu'à l'école. Alors heureusement, la récré qui était de 30 minutes a été allongée. C'est 1h30 maintenant, parce que c'est le seul moment où ils peuvent jouer ensemble, la récréation.
Plus de 160 000 enfants vivent dans les zones touchées par ces inondations. Et selon une étude de l'ONG Save the Children, une famille sur trois considère aujourd'hui nécessaire que leurs enfants reçoivent une aide psychosociale.
Le reportage d'Élise Gazangel à réécouter ce soir dans Accent d'Europe à 19h10, temps universel.
RFI Midi. Un monde de tech.
11h46, en temps universel. Comment l'intelligence artificielle va-t-elle changer nos vies? On a parlé déjà du travail de régulation autour de cette nouvelle technologie avec le fameux règlement européen sur l'IA. Et parallèlement, du côté de la tech, il ne se passe pas une semaine sans qu'un nouvel outil d'IA soit proposé au public. Bonjour Olivier Four.
Bonjour.
On le voit bien, une révolution est en marche et l'intelligence artificielle concerne tout le monde avec un exemple, celui de la recherche d'emploi.
Oui, exactement. Alors, pour en parler aujourd'hui, je me suis appuyé sur une étude qui vient d'être rendue publique par la Direction Générale du Travail en France. France Travail, l'organisme qui a remplacé Pôle Emploi, et les associations Diversidé et Connexio, qui travaillent pour une meilleure intégration des demandeurs d'emploi, ont été soutenus par Google pour conduire cette enquête. Et on s'aperçoit que même si les contours de l'utilisation de l'IA sont en constante évolution, les chômeurs trouvent déjà dans l'IA un allié précieux dans leur recherche d'emploi.
Et alors, est-ce que ça marche?
En tout cas, ça intéresse les demandeurs d'emploi. 40% d'entre eux disent utiliser l'IA pour rédiger un CV plus percutant, pour écrire des lettres de motivation personnalisées. L'IA qui facilite aussi la recherche d'offres d'emploi. Un tiers des chômeurs disent s'en servir en utilisation pour des recommandations automatiques. Ça permet, pour faire simple, de ratisser large et de gagner du temps. Enfin, quand la personne en recherche d'emploi a été sélectionnée ou a trouvé une offre qui lui convient, eh bien, elle se sert souvent de l'IA pour préparer son entretien ou résoudre des questions administratives.
Et cela étant, Olivier, il y a des disparités dans l'utilisation de ces outils?
Voilà, tout d'abord d'un point de vue générationnel, mais c'est peut-être moins marqué que ce qu'on pourrait croire. 83% des moins de 25 ans intègrent l'IA dans leur projet de retour à l'emploi, contre 69% pour les plus de 50 ans. Les femmes arrivent en tête dans l'utilisation de ces outils pour décrocher un poste. Enfin, il faut souligner des disparités sociales liées au niveau d'éducation dans l'utilisation de l'intelligence artificielle. Si 61% des bac plus 5 plébiscitent ces outils, la part de ceux qui se sentent vraiment à l'aise avec l'IA n'atteint que 34% pour ceux qui ont un CAP ou un BEPC.
Mais alors, est-ce que cette technologie n'effraie pas les demandeurs d'emploi?
En fait, selon l'étude, 40% des demandeurs d'emploi manifestent effectivement une certaine inquiétude ou des réserves sur l'usage de l'IA dans la recherche d'emploi. Et effectivement, on voit bien qu'il faut mettre en place un certain nombre de garde-fous. L'Europe s'y attelle avec un cadre réglementaire qui se met en place. Mais gardons en tête que si les demandeurs d'emploi, on vient de le voir, utilisent l'IA, les employeurs et les agences de recrutement ont techniquement les moyens d'en faire tout autant, avec des risques accrus de discrimination à l'embauche, autour de l'origine, de l'état de santé, de caractéristiques physiques par exemple, de l'orientation sexuelle, du passé des utilisateurs, voire de leur prise de position sur les réseaux sociaux.
Olivier Four pour la chronique Un Monde de Tech.
RFI à Paris, 89 FM.
Et on revient à présent sur la Ligue des Champions en football. On connaît depuis hier soir les 24 clubs qualifiés pour la suite de la compétition. Bonjour Eric Mamrus.
Bonjour Marion, bonjour tout le monde.
Et les fans ne savaient plus où donner de la tête hier avec 18 matchs pour cette dernière journée de la phase régulière. Une soirée particulièrement prolifique, Eric.
Un magnifique bouquet final avec 64 buts inscrits, soit 4 de moyenne par match. Les équipes ont tout donné. Certaines pour décrocher l'une des 8 premières places du classement, synonyme d'accession directe en 8e de finale. Les autres pour figurer entre la 9e et la 24e position nations afin de s'assurer une place en barrage, l'équivalent d'un 16e de finale. À ce petit jeu-là, c'est Liverpool qui a fini en tête de cette phase régulière malgré sa défaite 3-2 sur le terrain du PSV Eindhoven. Les Reds, il est vrai, qui présentaient une formation très remaniée.
Et les clubs anglais qui, d'une manière générale, ont réalisé un vrai carton, un carton plein lors de cette première phase.
Quatre clubs engagés, quatre qualifiés, trois d'entre eux se hissant directement en 8e de finale avec, outre Liverpool, Arsenal et Aston Villa, Manchester City, le quadruple champion d'Angleterre en titre, a lui arraché sa qualification hier en renversant le club Bruges 3-1. On ajoute à cela 4 clubs italiens qualifiés sur 5 engagés, 3 espagnols sur 4. Idem pour les Allemands. À l'arrivée, aucune grosse équipe européenne n'a raté la marche. Les 12 clubs éliminés n'étant que des seconds couteaux du continent.
Et les clubs anglais donc à la fête, Eric, de même que les clubs français.
C'est l'autre pays à avoir signé un grand chelem avec là aussi un 4-4. La palme revenant à Lille qui s'est invitée parmi les 8 meilleurs à la 7e place. Après son écrasant succès sur le Feyenoord Rotterdam hier, 6-1. Étonnant parcours des Lillois, vainqueurs de l'Atlético et du Real Madrid avec un nul au passage contre la Juventus Turin. De quoi être fier à l'image de leur gardien Lucas Chevalier au micro de Canal+.
On est tombé sur un groupe de la mort et aujourd'hui on est 7e. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte un peu de la performance. Donc je suis content pour nous parce qu'on travaille beaucoup et aujourd'hui c'est récompensé et puis on pourra rêver encore plus.
Ça passe au la main pour Lille, pour le Paris Saint-Germain, brillant vainqueur à Stuttgart 4-1 et qui termine à la 15e place. Monaco finit 17e après sa défaite à l'Inter Milan 3-0. Même tarif pour Brest, dominé à domicile par le Real Madrid, mais qui pour sa toute première participation en Ligue des Champions se qualifie pour la suite avec la 18e place finale.
Et Brest pourrait retrouver un autre club français en barrage.
Cela dépendra du tirage au sort prévu demain à midi, mais l'on sait déjà que Brest défiera soit Benfica, soit le Paris Saint-Germain, le PSG qui s'il n'affronte pas Brest, joue alors contre l'AS Monaco. Un duel franco-français, donc quoi qu'il arrive en barrage, le vainqueur retrouvant ensuite en 8e de finale soit Liverpool, soit le FC Barcelone.
Prochain rendez-vous donc les barrages avec match aller les 11 et 12 février et les matchs retour une semaine plus tard. Merci Eric Mamrut.
RFI Midi. RFI à Ziguinchor. 87.6 FM.
Plus de 1000 concerts à travers le monde. Ce quatuor de saxophone est l'un des plus connus, des plus prolifiques aussi. Ellipsos fête ses 20 ans cette année avec un nouvel album. Le 8e, il s'appelle Symphonic Stories. Les 4 virtuoses y revisitent 4 œuvres emblématiques: Carmen, Casse-Noisette, West Side Story et Rhapsody in Blue. À l'occasion de cet anniversaire, l'invité culture de RFI est Paul Fatty Lacombe qui officie au saxophone soprano chez Ellipsos. Il répond aux questions de Carmen Lutzmann.
Paul Fatty Lacombe, bonjour.
Bonjour.
Ça fait plus de 20 ans que vous sillonnez le monde avec votre quatuor, non pas à cordes mais à vent. 4 saxophones, plutôt une constellation rare dans la galaxie musicale. Pourquoi Ellipsos ?
Alors, Ellipsos, c'est une aventure d'amitié, de fraternité. On s'est retrouvés, en fait, à 18 ans, on avait envie de former un quatuor de saxophone, peut-être le plus grand du monde, on avait ce rêve-là. On était hyper motivés, mais insouciants. Et en fait, l'histoire a perduré avec la même flamme, la même énergie, le même appétit de manger le monde.
Et vous incarnez un peu le monde, donc vous êtes un Français passionné des arts martiaux, un autre qui touche à tout, du violoncelle au trombone en passant par la batterie, un Colombien d'origine qui est aussi arrangeur d'une centaine de pièces, et vous, Paul Fatty Lacombe, d'origine éthiopienne. Comment est née votre passion pour le saxophone, à quel âge ?
Alors, la musique est arrivée à l'âge de 11 ans dans ma vie, comme un boomerang. J'avais un appétit de faire quelque chose d'artistique, le théâtre, la danse. J'ai poussé la porte de l'école de musique, de la classe de saxophone de Guy Banchereau. Et c'est à ce moment-là que je suis tombé vraiment en amour, parce que c'est un instrument qui vous donne tellement. Vous êtes en permanence surpris de la manière dont il vous emmène. Moi, je dis que c'est un passeport pour le monde, passeport pour la liberté.
Et avec ce passeport, vous avez voyagé à travers une vingtaine de pays. Est-ce qu'il y a une destination, un public qui vous a particulièrement marqué ?
Alors, aux États-Unis, par exemple, on se croirait une fois dans des stades de foot, il y a une ambiance de fou, les gens expriment leurs émotions. Dans les pays, en Europe de l'Est, on est un peu plus sur l'écoute. Et je trouve que c'est bien d'avoir cette diversité. On a tous des différences. Ce qui compte, c'est les vivre et créer ensemble une émulation collective.
Vous avez donné plus de 1000 concerts, rien qu'en France, de la Tour Eiffel au château de Versailles, en passant par la folle journée de Nantes. Vous présentez votre 8e album, Symphonic Stories. Que racontent ces histoires symphoniques, Paul Fatih-Lacombe ?
Plein d'histoires différentes, à la fois de Carmen, en passant par le jazz, en allant aux États-Unis à Broadway, avec un dénominateur commun, le piano. Donc on est allé rencontrer des pianistes de la jeune génération. À Saint-Pétersbourg, on commence par le froid sibérien. Enfin bref, c'est un grand voyage du froid au chaud. Et on finit avec Bernstein, où ça pète, où c'est vraiment la fanfare, la grande parade en fait dans New York. Le saxophone est un instrument caméléon, au carrefour des musiques, parfait pour ce type d'histoire.
Vous êtes aussi attaché à la transmission de votre art auprès des jeunes et en particulier à destination des plus défavorisés aux côtés d'UNICEF. Avez-vous vécu des situations où vous avez pu vous dire « Ah oui, la musique peut sauver ».
Clairement oui. Notre voyage en Colombie, il y a 2 ans, on est allé jouer à l'orphelinat aux enfants qui avaient tellement d'étoiles dans les yeux. C'était incroyable et bouleversant de voir à quel point la musique n'a pas de frontières. La musique parle à tous, d'où qu'on vienne. Dès qu'on a une petite respiration sur Terre, on est connecté avec ça. Et puis un autre exemple, en Éthiopie, quand je suis parti en 2005, je suis allé à Diledawa, je suis allé à Harare, j'entendais du saxophone classique à Addis Abeba. Alors là, dans le bar, ça m'a épaté, je me suis dit, mais tout est possible, quoi, tout est possible.
Alors, Symphonic Stories, c'est également l'un des albums officiels de la Folle Journée de Nantes. Qu'est-ce que cette manifestation fait résonner en vous, Paul Fatih-Lacombe ?
On est tous dans un grand bateau où on embarque pendant 4 jours. On est du matin au soir plongé dans la musique. Dans l'hiver, on a tous envie de réconfort, on a envie de chocolat, on a envie de chaleur. Et la Folle Journée, c'est ça, en émotion, en musique. Et cette année, avec les villes phares, il va y avoir une diversité des programmes. On va voyager, c'est une aventure incroyable. Bravo !
L'album Symphonic Stories du Quatuor Ellipsos à découvrir à la Folle Journée de Nantes dans l'ouest de la France jusqu'au 2 février. Dans quelques minutes, dans RFI Midi, notre invitée internationale, la journaliste Ala Kodmani, on reviendra sur cette nouvelle étape dans la transition syrienne avec la dissolution de la Constitution et la nomination d'Ahmed al-Shara comme président par intérim. Il est pour l'heure midi 56 à Paris, dans un peu plus d'une demi-heure, le retour de l'actualité africaine sur RFI Afrique Midi avec Nicolas Sur. Bonjour Nicolas.
Bonjour Marion.
Au programme.
La situation dans l'est de la RDC après une réunion virtuelle des chefs d'État de la communauté des États de l'Afrique de l'Est, convoquée hier par le président kényan William Ruto. C'est la SADC, la communauté d'Afrique australe, qui annonce une réunion extraordinaire demain à Harare au Zimbabwe. Sommet extraordinaire consacré bien sûr à la situation. Honneur qui vous. Et puis au Bénin, c'est l'heure du délibéré dans le procès d'Olivier Bocquoz, Valdo Mecchi et consorts jugés pour complot contre la sûreté de l'État. Le verdict est attendu dans la journée. Ce matin, le ministère public a requis 10 ans de réclusion criminelle contre Oswald Omeki et Olivier Bocquoz et 20 ans contre le beau-frère d'Olivier Bocquoz.
Afrique Midi, midi et demi, temps universel avec Nicolas Sur. Dans quelques minutes, le retour de l'actualité internationale avec un nouveau journal. En attendant, on fait un tour dans la playlist de RFI. On écoute Do Rays qui chante Va Embora. Mudo, só se mudou pra pior. Porque eu não vejo diferença desde que nós se cruzou. Amor que dó, tão só quando eu falo não. Sempre cercando quem te ama pra não ir embora. Você só querendo por suas poucas horas. Senhor, me dê-me paciência bem. Eu tô saindo fora, obriga das vivências pra não mandar pra outro lugar. Aprendi nisso que é bem fácil de me enganar. Minha camiseta da Tribe, você pode ficar. Não quero nada que de você me faça lembrar. Eu tô, sim, eu tô bem melhor. Peregrinando no meu interior, me sentindo completo sempre que eu estou só. Só de ouvir seu nome, minha garganta dá um nó. Mas tá tudo bem, meu bem. Vai ficar tudo bem, meu bem. Assim tá tudo bem, meu bem. Vai ficar tudo bem, meu bem, meu bem, meu bem. Assim tá tudo bem, meu bem. Vai ficar tudo bem, meu bem. Tá tudo bem, meu bem, meu bem. Vai ficar tudo bem, meu bem. Eu já disse, vai embora, por favor. Embora pra minha casa. Use suas asas e vem pra perto de mim. Eu amo você, odeio você, amo odiar você. Essa de se preocupar só quando perde é mais que chegue novela das 8. Não sou de suportar essas fitas. Veio me encontrar com a camiseta mais bonita e com o interior horrível. Toda aflita voltando na tarde daquele domingo cinza.
Que as borboletas nos cercavam no jardim. Eu olhando pra você, você olhando pra mim. Os caminhos se abriam onde pisa e só faltou o chapeleiro. De volta ao desespero, chega do país das maravilhas. O mais triste da Elis Regina, na escrita mais profunda de Jobim. É o fim, suas roupas são na esquina. Está aqui o endereço, ótimo recomeço. Que tu suma pra China, antes que volte o clima. Porque eu sei que sempre volta. E essa vontade sempre me escolta. E o não já vira assim.
Doreys, avec son titre Vaembora, à retrouver dans notre playlist du mois. Dans quelques secondes, un nouveau journal sur RFI.
Eu já disse, vai embora, por favor.